Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à toutes et à tous et merci de votre confiance à parole aux auditeurs. Il s'est tenu la semaine dernière dans la ville de Lubumbashi une conférence sur la bonne gouvernance et la transparence dans les secteurs miniers. Les participants à ces assises ont relevé le déséquilibre entre l'exploitation minière et les recettes réalisées à chaque exercice. À cet effet, il a été recommandé à l'issue de cette rencontre organisée par le ministère des Mines, le bénéfice de l'urgence à accorder à la révision de l'actuel code minier. Que vous inspire cette recommandation? C'est la question principale de cet échange et partage. Notre standard est déjà ouvert, appelez-nous au 081 890 6315 et rejoignez-nous également à notre courriel pa@radiocapi.net et vous avez aussi la possibilité de poster vos préoccupations sur notre page Facebook. Merci à Titi, à Pierrot ainsi qu'à Sylvain Matundou pour la réalisation de cette émission supervisée par Nicole Ngaka. Au micro, J.R. Lungembo pour la présentation de ce programme. Excellente condition d'écoute à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Maître Valérie Moukassa, vous êtes le directeur de cabinet au ministère des Mines. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Voilà. Maître Valérie, à ce jour, quel est le volume d'investissement et de la production minière par rapport aux années passées?
Vous posez une question un peu ambiguë quand vous demandez le volume des investissements. C'est une chose et la production, ça
en est une autre. Voilà.
Donc si on peut
mettre ça les deux pour savoir un peu combien d'investissements nous avons actuellement par rapport aux années passées, parce que s'il faudrait nous situer simplement à la période allant de 1937 à 1966, on se rendra compte qu'il n'y avait pas assez d'investissements de 67 à 96. C'est vrai, même allant vers le 81, on a dégagé quand même par rapport aux données que nous avons plus de 48 sociétés minières qui ont été opérationnelles pendant cette période. Alors aujourd'hui, combien de sociétés avons-nous?
Nous avons plus de 500 sociétés qui sont reparties à travers les différentes filières et qui ont certaines dans des secteurs de transformation, d'autres qui sont dans le secteur d'extraction et d'exploitation directement. Il y a plusieurs sociétés, plus de 500 sociétés dans le secteur minier actuellement.
Plus de 500 sociétés. Alors, à en croire les recommandations formulées par le participant aux assises de Lubumbashi, il y a, malgré ce volume important d'investissement, des entreprises qui exploitent les minerais en RDC, il y a un déséquilibre entre les recettes enregistrées et l'exploitation. D'abord, est-ce que vous partagez cet avis et à quoi serait dû cela?
Je crois qu'il faut nuancer. Lorsqu'on parle de production et de recettes attendues, on doit se focaliser sur certains paramètres qui nous permettent d'apprécier objectivement. C'est vrai que la plupart des personnes, de ceux qui font ces analyses ou ces analyses comparatives, se réfèrent aux années 1982, 84, 86, où la Gécamine avait atteint à peu près 480 000 tonnes de cuivre et les recettes étaient très importantes. Et aujourd'hui, nous parlons principalement de cobalt, plutôt de cuivre. Et aujourd'hui, nous avons atteint à peu près 600 000 tonnes de cuivre, mais on se pose la question, quelles sont les retombées, parce que ces retombées sont pratiquement insignifiantes. Donc c'est là qu'il faut apporter la réponse et permettre à tous et à chacun d'être fixé sur la matière. Certes, il y a des problèmes que nous devons tous régler, mais la matière peut être abordée de la manière.
Parce qu'il s'agit là d'une observation faite par le sommet même de l'État.
Absolument. C'est une observation.
C'est déséquilibre entre les recettes et le...
C'est une observation.
Donc,
ce n'est plus un secret. C'est une observation qui est tout à fait fondée, fondamentale et légitime. Premier paramètre, c'est que nous sommes à plus de 600 000 tonnes de cuivre et les retombées ne sont pas importantes. il faut considérer que les retombées sont d'abord en termes de redevances minières. Nous avons atteint à peu près 100 millions de dollars pour l'année dernière. Mais il y a d'autres retombées que nous ne percevons directement pas au niveau du secteur de notre ministère. C'est des retombées en termes des impôts qui sont encadrés par la DGI. Et ces impôts, il faut aussi les regrouper et les retracer au niveau du secteur minier. À ce moment-là, on se rendra compte. Mais ce que le haut sommet de l'État a dit est tout à fait valable, parce que en dépit de l'importance de la production ou des exportations qui se font, on se dit qu'il y a des retombées ou un budget plus important qu'on devrait avoir. Cela montre que, d'une certaine manière, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas transparentes. C'est le reproche qui est fait tant au niveau du secteur public, parce que les agents de l'administration, des diverses administrations qui sont censés encadrer les opérations, les activités minières, de l'extraction, la production, la transformation, etc., jusqu'à l'exportation, doivent chacun
faire
son travail et permettre à l'État de gagner le centime de franc sur chaque centime sur chaque gramme de cuivre, sur chaque gramme d'or, sur chaque carat de diamant, etc. De la même manière, le reproche est fait aux opérateurs miniers, parce que s'il y a des gens qui ne travaillent pas correctement, c'est qu'ils travaillent en harmonie avec d'autres. Donc ça leur profite, et ça profite aussi aux opérateurs miniers. Ce n'est pas une accusation que je fais, c'est des observations que nous avons reçues et qui sont tout à fait valables et qui peuvent se faire vérifier.
Voilà, au cours de ces assises, il a été recommandé d'accorder le bénéfice de l'urgence à la révision du code minier. Je crois que pour plus d'un, aujourd'hui, on a l'impression qu'on est dans un cycle de révision de code minier ou dans un long processus qui est loin de se terminer.
Nous ne sommes pas dans un long processus qui est loin de se terminer. Nous avons initié ce processus sous l'impulsion du chef de l'État, parce que vous vous souvenez lors...
Parce que le code minier aujourd'hui a 10 ans pratiquement.
Le code minier a 10 ans. Oui. Il a atteint ses 10 ans depuis le 11 juillet de l'année dernière. Et vous vous rappelez, au cours de son discours d'investiture en 2011, décembre 2011, le chef de l'État avait estimé que le secteur minier méritait une réforme fondamentale. Et la réforme du secteur minier ne peut se faire que sur la loi qui est son soubassement. Et donc, on a initié depuis lors un processus de révision du code minier qui d'abord a eu un début au niveau du ministère des Mines. Les différents experts du ministère des Mines ont travaillé, ont produit un draft qui a été analysé par d'autres experts des différents ministères dans une commission interministérielle. Et maintenant, nous sommes dans la phase où nous devions nous mettre ensemble avec toutes les autres parties prenantes, c'est-à-dire nous allons travailler avec la société civile, les opérateurs miniers, les partenaires au développement, pour lire ensemble les drafts que nous avons faits, parce que les autres ont aussi fait des analyses sur le code, de sorte que nous puissions intégrer dans le code révisé que nous voudrions avoir dans un délai court ou à tout le moins à l'échéance de
l'année. Et qu'est-ce qui sera en toile de fond de cette révision?
Non, je crois que ce ne serait pas bon que j'en parle ici.
Non, parce qu'il y a eu des recommandations au niveau de la conférence de bonne gouvernance, parce que ce n'est plus un secret, il y a eu plusieurs recommandations. Nous n'allons pas revenir sur chacune de ces recommandations, mais néanmoins, si on peut faire, on peut quand même permettre aux auditeurs qui vont intervenir d'ailleurs tout à l'heure de se faire une idée en toile de fond de cette révision, parce que c'est un processus. Aujourd'hui, le sommet de l'État est revenu sur cette observation pour dire il faut chercher à équilibrer l'exploitation et les recettes. Alors par où allez-vous commencer?
Quand on parle de recettes, de l'exploitation, de la production et des recettes, c'est dans le code, on voit tout naturellement le régime fiscal. Donc c'est de notre côté, nous estimons que le régime fiscal du code minier devrait être analysé, remis un peu, remettre la pendule à l'heure pour que l'État et les populations de la République démocratique du Congo tirent les meilleurs ou les maximums de ce secteur important afin qu'ils impulsent pour un développement durable de notre pays.
Parce que si je me permets de faire un voyage rapide dans ce code minier, c'est vrai, il y a eu quand même une innovation qui a été apportée lors de dernières révisions. On avait introduit une innovation en mettant en place un régime fiscal et douanier unique applicable à tous les opérateurs du secteur minier industriel et à tous les exploitants miniers à petite échelle, sans aucune exception, résultant de la nature ou durée du titre minier. Alors, à ce niveau, qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'avait pas marché ?
À ce niveau, il y a beaucoup de choses qui ont marché, il y a aussi beaucoup de choses qui n'ont pas marché. C'est la question que vous aviez posée en liminaire, à savoir comment est-ce que la production est importante ou les exportations sont importantes et d'autre part les recettes ne sont pas importantes, ne suivent pas. Mmh. Et que donc on a estimé qu'au niveau du régime fiscal du code minier, c'est un régime qui est spécial. Comment est-ce que l'État n'arrive pas à tirer les dividendes nécessaires pour son budget? À ce moment-là, il y a un déséquilibre qui a été constaté, notamment lorsqu'on considère les différents taux. C'est des taux qui sont très, très incitatifs, certes, mais qui ne permettent pas à l'État de rentrer dans ses droits. Lorsque nous prenons, par exemple, le taux pour l'importation de carburant, c'est un taux très faible lorsqu'on on regarde les taux de droit commun. Lorsque nous regardons, par exemple, les taux d'importation des divers biens, des divers équipements, c'est un taux très faible lorsqu'on le compare au taux du droit commun. Tout naturellement, on doit comprendre que l'investissement minier, c'est un investissement important qui nécessite certains allègements. Mais alors, ces allègements ne doivent pas être de nature à annihiler carrément la possibilité pour l'État de tirer les bénéfices de cette activité minière. Et que donc, c'est là qu'on voudrait, avec toutes les parties prenantes, se mettre autour d'une table dans le cadre de cette révision, parce que nous avons déjà un draft, discuter sur tous ces paramètres-là et voir comment nous pouvons ensemble répondre à ces attentes du peuple. Bien sûr, nous regardons aussi dans différentes lois au niveau du continent et même au niveau du monde.
On va les adapter, voilà, et avoir un standard universel. Voilà, 081-890-6315 pour participer à ce débat.
Parole aux auditeurs.
Nous accordons la parole à la première série des auditeurs. Il y a Mbouyamba qui est à Mbujimayi, Edgar Kananga et Christian à Lubumbashi. Mbouyamba, voilà. Je ne parlais plutôt de Mbujimayi. Alors Mbouyamba, bonjour. Théodore.
Bonjour, Gérard.
Voilà, Théodore, merci de rejoindre. Voilà, vous avez suivi notre invité tout à l'heure. C'est vrai, nous parlons de cette conférence de Lubumbashi sur la conférence de bonne gouvernance et la transparence dans les secteurs miniers. Alors, les participants à ces assises ont relevé les déséquilibres entre l'exploitation minière et les recettes réalisées. Et ils ont, par la même occasion, recommandé qu'on puisse accorder le bénéfice de l'urgence à la révision de l'actuel code minier. Alors, que vous inspire cette recommandation et avez-vous quelques propositions à faire? Oui, Théodore, allez-y.
Oui, la conférence tenue à Lubumbashi sur la bonne gouvernance et la transparence, selon nos informations, il y a eu beaucoup de recommandations qui ont été faites pour les provinces concernées. Pour ce qui concerne le Kassai oriental, parce que je ne peux pas parler d'autres provinces, la province est moins industrialisée. Elle présente le paradoxe d'être le premier producteur en diamant israël, mais c'est pas le cas. Nous avons le régime fiscal sur le terrain, aujourd'hui le service des impôts, qui devait recevoir beaucoup d'argent à partir de la MIBA ou bien de la FEMINE, la Fédération des industries minières. Il n'arrive pas à le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, les services des impôts se contentent d'entrer seulement dans les marchés, dans les secteurs commerciaux pour faire ses recettes. Mais aussi à l'État, je ne sais pas, nos représentants qui étaient à Lubumbashi, est-ce qu'ils ont pensé à faire montrer à l'État que l'État a négligé le Kassai oriental? Parce que ce n'est pas seulement les diamants ici. Il y a l'existence d'autres minéraux tels que le nickel, le chrome, de l'or, le fer, le calcaire et du pétrole même. Et puis, je peux même dire qu'aux environs de Jikapa ici, estimé, nous avons le diamant estimé à 13 millions de carats, plus de 13 millions de caractères. Et puis, dans cela, les contenus étaient vraiment, s'élèvent à plus de 9 millions de mètres cubes de minéraux. Dans les sangs aussi, de l'or, à l'huile, il y a des nickel. À quel moment là ici, nous avons du calcaire qu'on doit exploiter. Mais pourquoi on peut faire la politique de troisième mesure? C'est faire signer beaucoup de contrats ailleurs. Mais ici, chez nous, nous avons aussi besoin de faire des recettes. mais on a négligé les mines. Alors je propose quelque chose. Je ne sais pas s'ils avaient fait ça à Lubumbashi parce que nous avons eu des représentants là-bas. Avant de faire la bonne gouvernance et la transparence dans une province ou bien dans un pays, on doit appliquer dans chaque province de la même manière. Multiplier d'abord les contrats réels avec l'investisseur, augmenter la capacité de production électrique, diversification de l'exploitation des produits miniers, l'installation des usines de traitement du diamant brut, création d'un partenariat de développement et puis vulgariser les codes miniers. Voilà un peu ma préoccupation.
Voilà, votre préoccupation tourne autour des investissements, c'est vrai. Vous dites que les investissements dans les secteurs miniers, c'est toujours au détriment de la province du Kasaï oriental, et pourtant il y a des minéraux qu'il faudrait également exploiter, et aussi d'autres dérivés de minéraux. Vous avez parlé de nickel, vous avez parlé de chlore, et tant d'autres. Voilà, vous souhaiterez que, dans la mesure où on aura à réviser le code minier, et aussi dans la politique d'orienter des investissements, qu'on pense également à la province du Kasaï oriental. Merci Théodore Mbuyamba d'avoir appelé de Mbujimayi. Edgar, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour Gér, et bonjour à notre invité.
Que vous inspire cette recommandation de pouvoir accorder le bénéfice de l'urgence à la révision de l'actuel code minier?
Ah, ça, vraiment, c'est une bonne chose, monsieur Gér. Puis on révise ce code-là. Et puis si on applique, autre chose est de réviser et autre chose c'est l'application, mais c'est juste qui pose problème dans notre pays. Vraiment, on a beaucoup de textes qui ne sont que sur le tiroir, qui ne sont pas appliqués. Bon, moi, je note un élément positif dans ces assises de Lubumbashi. C'est une seule chose, c'est qu'on a résolu que les mines, donc les produits miniers puissent être exploités, qui sont exploités sur place à Lubumbashi, puissent être traités sur place. C'est une bonne chose vraiment qu'on a sorti lors de ces assises. Parce que tout le reste là, moi je trouve que c'est une distraction. Parce que ça fait plusieurs années que ces gens sont au pouvoir. Et c'est seulement aujourd'hui qu'ils se sont rendus compte qu'il y a disparité qui existe entre les richesses du pays et le niveau de vie de la population. Moi je pense que si on appliquait réellement la constitution, ces assises ne nous pas eu lieu. Quand nous avons suivi sur les médias, on parle de plus de 100 recommandations, mais c'est GF. Moi, ça, c'est vraiment, c'est tout. Il y a beaucoup d'autres recommandations. On peut éviter encore le code minier. Bon, vous voyez qu'on se retrouve avec beaucoup de choses à la fois. Donc, il faut vraiment que le gouvernement puisse vraiment être prêt à appliquer ce qu'on est en train de mettre sur papier. C'est ça l'essentiel.
Merci Edgar. Vous avez l'impression que le gouvernement avait une chose et son contraire. Plusieurs recommandations, c'est comme si on est dans une forêt et on risque même de se perdre sans pour autant atteindre l'objectif. Et l'objectif pour vous, c'est d'aller tout droit au but, comme on a accepté unanimement qu'on puisse traiter sur place, par exemple à Lubumbashi, les minéraux. Vous pensez que cette mesure, elle est salutaire. Merci beaucoup Edgar. Christian, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour Christian. Christian, vous êtes à Lubumbashi. Vous êtes avec nous? Voilà, les temps de prendre d'abord Sylvain qui est à Kinshasa. On reviendra à vous Christian. Sylvain, bonjour.
Oui, bonjour Radio Kati. Bonjour à tous.
Vous avez suivi vos prédécesseurs. Est-ce que vous partagez leurs avis?
Peut-être oui, mais j'essaierai d'aller dans un autre sens. Vous voyez que dans ce pays, depuis nos colonisateurs belges, il y a eu toujours beaucoup de choses, et surtout en particulier la littérature. Le sommet a eu lieu, oui, plusieurs recommandations ont été faites, je suis tout à fait d'accord. Je voudrais plutôt dire qu'on ne va pas rester justement au niveau de la littérature, hein, d'un sommet à un autre, d'une mise au point à une autre. Je pense qu'il faudrait aller tout droit à l'essentiel. C'est bien qu'ils ont révélé plusieurs recommandations, notamment la production et au traitement des produits sur place, une bonne chose. Et c'est que le gouvernement doit faire ce quoi? Doit ajuster les choses, mettre les points sur les i dans le problème minier de la Sud-Afrique. Vous constaterez que ce qui est produit ne profite pas aux Congolais. Ce qui est produit va plutôt dans un autre sens. Donc, on ne sent pas qu'il y a un impact réel des mines congolaises par rapport à la situation, par rapport à la vie des Congolais. Alors, toutes choses doivent concourir au bien des Congolais, au bien des filles qui les soivent et qui vivent à côté de ces minéraux. Donc c'est une bonne chose de déclarer, mais il faut passer vite à la concrétisation, notamment la recette, ou si vous voulez les recettes, doivent être liées à la production. Et lorsqu'il y a un écart, cet écart-là est justifié par la corruption qui gangrène le milieu minier de la République du Congo. Alors, il faut qu'on y mette du sérieux, et toute chose que la production concourt au bien des Congolais, il semble qu'il y a un impact, bien entendu, de leur mine au niveau du changement de leur vie, au niveau de leur vie. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons révéler face à ce sommet qui s'est avéré, bien sûr, important, parce que ce sont plusieurs déclarations qui ont été faites. Et maintenant, on passe à la phase de concrétisation de tout ce qui a été arrêté là-bas. Parler, c'est bien, mais faire ce dont on pense, faire ce dont on attend, la population, c'est beaucoup plus mieux.
Merci beaucoup, Sylvain. Christian, vous êtes là, nous, en ligne. Bonjour, Christian.
Oui, bonjour, Toby.
Allez-y, c'est JR qui est au micro.
Ok, merci, JR. J'étais en train de dire que, vous savez, nous devons savoir d'abord avec qui on signe le contrat. C'est ça le grand problème, le contrat minier. Donc, nous devons savoir avec qui le gouvernement signe avec qui. Nous venons à peine de suivre, le ministre était en train de déclarer que il n'y a pas de clarté au niveau du Katanga, donc au niveau des secteurs miniers. Mais je voulais savoir avec qui on signe ce contrat. C'est ça ma toute première question. D'autant plus que beaucoup de gens ici à Lubumbashi sont en train de condamner le gouverneur ainsi que l'Assemblée provinciale en disant que c'est eux qui sont en train, n'est-ce pas, de prendre de l'argent et de faire de manigances.
Christian, s'il vous plaît, vous êtes sur place à Lubumbashi, c'est vrai, il y a une intense activité minière dans cette partie du pays. Et qu'est-ce que vous constatez personnellement? Est-ce qu'il y a un bon nombre d'investissements dans ces secteurs? Et si vous pouvez jeter un regard également du côté de la production, est-ce que la population de Lubumbashi en particulier en bénéficie?
Bon, bien sûr que oui, je suis sur place et un jour je me suis rendu même à Fungurou, mais j'ai vu, il y a tout un monde de producteurs là-bas. On produit chaque jour dans le secteur minier. Mais ce qui est réel dans sur le terrain, nous ne voyons pas
le bénéfice.
Nous ne sentons pas les retombées de ces productions. C'est ce que je voulais un peu dire.
Merci
donc,
beaucoup.
La population ne ressent pas cela.
Merci beaucoup, Christian. Et on restera toujours au Katanga avec Dieudonné, qui est à Likasi et il travaille dans une carrière minière. Dieudonné, bonjour. Voilà.
Bonjour.
Dieudonné, s'il vous plaît, si vous pouvez peut-être commencer par éteindre votre poste récepteur, parce que ça fait un mauvais retour à l'antenne. Je sais que s'il faut compter avec la distance, bon, nous avons besoin d'une bonne communication.
Oui, je m'éloigne, s'il vous plaît.
Allez-y maintenant, Dieudonné.
Ok, vraiment, la conférence de Lubumbashi, c'est une bonne chose, comme notre gouvernement vient de le faire. Mais ce que nous nous posons comme question est de savoir, est-ce que le gouvernement s'est en mesure de respecter tout ce qu'il est en train de faire comme révision sur les codes miniers? Parce que ça fait longtemps que notre gouvernement a toujours présenté la volonté de bien travailler, mais sur le terrain, il fait autre chose. À titre d'un exemple, moi je suis à la carrière de mine, il y a des Congolais parfois qui achètent des minéraux ici, mais ils sont beaucoup pénalisés parfois à l'intérêt d'un homme blanc. Parfois, on envoie un homme blanc, on dit que non, les Congolais ne paient pas encore les minéraux, il fallait qu'ils payent les minéraux pour vendre seulement chez les blancs, et pour ne pas amener ça soit à Lubumbashi ou bien à Likasi comme on le faisait auparavant. Maintenant, l'homme blanc là-bas commence maintenant à pénaliser. C'est-à-dire, pour le gouvernement, il fallait favoriser un individu à l'intérêt de l'homme blanc. C'est ce qu'on se pose vraiment. Est-ce que réellement notre gouvernement a la volonté de bien faire pour l'intérêt des peuples congolais? Bon, tout ce qu'il est en train de faire, c'est nier. Est-ce que réellement il va respecter? Parce que si l'intérêt, c'est autre chose, à la radio, c'est autre chose.
Voilà, merci beaucoup Dieudonné. On retient que votre inquiétude va dans les sens. Hein. Il ne faudrait pas que ces assises ne soient que chapelet de bonnes intentions. Il faut vraiment des garanties de la part des autorités qui ont aidé la société civile qui était sur place là, qui ont fait des recommandations dans le sens de pouvoir réellement réviser ces codes miniers et que cela soit à l'avantage et de la population et aussi de l'État congolais. Merci beaucoup Dieudonné. Jean Chrysostome, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, JR.
Voilà, Jean Chrysostome, vous avez suivi vos prédécesseurs, vous partagez certainement les avis des uns et vous avez également un avis particulier à émettre par rapport à vous-même.
Oui, exact. Oui. Moi, je voudrais peut-être relever une autre dimension qui n'a pas été soulevée jusque-là. En fait, c'est la référence aux valeurs éthiques dans l'exploitation minière. Le directeur de cabinet a dit quelque chose d'assez banal apparemment, mais c'est lourd de conséquences. Quand il dit ceci, voilà, un investissement minier, il est très lourd. Alors il faut comprendre qu'il y ait des allègements. C'est là que se pose le problème dans le secteur minier, ces fameux allègements. Vous pouvez lire le rapport Lutundula, vous pouvez lire le rapport Mutamba Dibwe, vous pouvez lire le rapport des députés provinciaux de Mbujimayi sous l'AMIDA. Vous constatez que le problème dans le secteur minier au Congo, c'est celui de l'impunité et de la corruption. Tant qu'on n'aura pas mis fin à la corruption, à l'impunité, à travers n'importe quel habillage technique ou terminologique, le secteur minier ne profitera jamais aux Congolais. Moi, je trouve que c'est bien qu'on ait un code, mais je trouve qu'à l'heure actuelle, c'est une distraction. Après autant d'années d'exercice du pouvoir, aujourd'hui, on se réveille un bon matin, on se rend compte que les richesses minières ne profitent pas aux Congolais. Alors, de qui se moque-t-on? Moi, je trouve qu'il y a quand même peu de sérieux à mettre de ce côté-là. Il faut qu'il y ait des références à des valeurs éthiques. Et les hommes qui sont, les acteurs qui sont présents dans le secteur minier, se rendent compte qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire et qu'il y a des choses qu'il faut faire pour le bien de la communauté. Et quand on est nommé responsable à tel ou tel ministère ou à tel ou tel secteur dans le domaine minier, c'est pas pour un enrichissement personnel, c'est pour le bien de la communauté. Et on ne doit pas faire, par exemple, recourir à des allègements fiscaux qui ne favorisent que les étrangers. Pendant que les Congolais, qui sont assis sur des sols extrêmement riches, continue à mourir de faim, à mourir de maladie. C'est pas normal, voilà, c'est moi, je tiens à dire.
Merci beaucoup, Jean-Chrysostome, d'avoir appelé de Kinshasa, 081-890-6315, pour participer à ce débat.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces, à 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Okapi.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Maître Valérie, vous êtes avec nous dans ce studio, vous avez suivi les uns et les autres. Nous avons recueilli, disons, un baluchon des préoccupations, des appréhensions. Disons, les gens sont un tout petit peu, les uns sont un peu sceptiques, hein, en disant, c'est vrai, la théorie, les gens parlent, il y a la loi, mais l'applicabilité, l'application sur le terrain, c'est ce qui pose problème. Il y a d'autres qui ne souhaitent pas que cela ne reste qu'un chapelet de bonnes intentions. Il faut qu'on aille un peu plus loin, hein, qu'on évite de dire une chose et de rien faire par la suite. Alors Jean Chrysostome qui est revenu sur l'aspect que vous avez évoqué tout à l'heure, l'allègement fiscaux, avec les investissements qui sont très lourds. Alors que répondez-vous aux uns et aux autres?
Merci Monsieur J.R. J'ai apprécié la qualité des interventions des différents auditeurs qui sont en train de nous suivre. Et là je me rends compte qu'ils sont vraiment très intéressés à notre secteur. Je commence par Monsieur Théodore Mbuyamba qui est en Mbujimayi. Il dit que l'État n'a pas favorisé la province du Kasaï oriental, malgré que cette province produit beaucoup de diamants et qui profite à l'État. Ma réponse est très simple. Le Kasaï oriental n'a d'investisseur que l'Amiba. Les autres sociétés qui sont en train de s'implanter, vous n'allez pas en dénombrer deux ou trois qui sont en phase d'exploitation. Ou encore, tous les autres titulaires des droits miniers sont soit en phase de recherche, soit ils ont transformé leurs titres en titres d'exploitation des petites mines, mais ils ne suivent pas toute la réglementation, ni encore moins toute la législation, pour que nous puissions contrôler les activités qu'ils font. D'autre part, vous vous rendrez compte que l'activité minière qui s'y passe est quasiment artisanale. L'activité artisanale, certes, produit de recettes, mais ne favorise pas un développement durable. Parce que si vous allez dans les différentes carrières à travers les pays, ce n'est pas seulement la situation du Kasaï oriental. Là, quand vous allez dans les carrières, vous verrez des milliers de personnes qui sont en train de travailler avec des moyens très rudimentaires, pratiquement à main nue. Ils travaillent juste pour avoir de quoi se nourrir la journée, peut-être prendre un peu de boisson, et le lendemain recommencer la même chose. Mais le diamant ou l'or ou je ne sais pas quel autre produit qu'ils tirent profite à d'autres personnes. Donc notre objectif au niveau du ministère des Mines, c'est que l'exploitation minière, qu'elle soit artisanale ou industrielle, puisse profiter au peuple. Comment est-ce que nous voudrions y arriver? Principalement pour l'exploitation artisanale, nous voudrions renforcer l'encadrement des exploitants artisanaux par le CISCAM, qui est notre service d'encadrement de l'exploitation artisanale, afin de mieux l'exploitation artisanale en exploitation de petites mines. Et d'autre part, nous ne voudrions pas nous retrouver, continuer à avoir des exploitants artisanaux qui travaillent en solos dans les carrières. Si vous travaillez seul, donc vous ne produisez que pour vous seul et ce n'est pas important.
Est-ce que vous soutenez l'avis qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a cet imbroglio au niveau de la gestion de ces secteurs, parce que c'est vrai, il y a une part qui est gérée par la présidence de la République, d'autre part par le ministère des Mines, et le ministère des Mines au travers des services techniques, je peux citer Camille, CISCAM, comme vous venez de le dire, et aussi les CPTM, voilà. Il y a sous forme d'une confusion un peu. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qui autorise les investissements et qui n'est pas obligé de les faire, donc parmi ces trois ou quatre acteurs? Parce que finalement, on se rend compte, le code minier cite énormément ces catégories des personnes qui gèrent les secteurs miniers.
Non, je crois qu'il n'y a pas d'imbroglio. Le secteur minier est géré par le ministère des Mines. Certes, le code donne certaines attributions à certaines personnes.
Notamment la présidence de la République.
Pas la présidence de la République. Le président de la République, lorsqu'il s'agit de réserver certaines substances. Le président peut réserver certaines substances. Lorsqu'il s'agit également aussi de faire passer certains gisements à l'appel d'offres, des gisements qui ont été travaillés par l'État, le président de la République intervient. Il signe une ordonnance pour autoriser cela. En dehors de ces deux possibilités, le président n'intervient nullement. Et que donc la présidence n'a aucune prérogative spécifique en ce qui concerne l'orientation des investisseurs qui viendraient ici ou pas. Certes, la présidence, c'est une institution qui est au-dessus des autres, mais le président de la République ou la présidence n'intervient pas directement dans la gestion du secteur minier. La gestion du secteur minier est assurée par le ministère des Mines. C'est vrai, le ministère des Mines a plusieurs services, notamment le cadastre minier que vous avez cité, ça, c'est en ce qui concerne l'attribution ou l'octroi des titres miniers. Le CISCAM, c'est en ce qui concerne l'encadrement de l'artisanat minier. La CTCPM, c'est une cellule technique du ministère des Mines, mais il y a aussi plus grand, c'est l'administration. L'administration est le bras le plus fort du ministère des Mines dans l'application du code minier.
Et le contrat d'amodiation est autorisé par qui?
Le contrat d'amodiation, ça c'est un contrat qui est fait entre deux personnes. Nous n'intervenons pas directement. Le cadastre minier intervient lorsqu'il faut enregistrer ce contrat d'amodiation, parce que c'est ça que la loi prévoit. Donc, si
oui, c'est pas le sujet du jour, voilà. Mais parce que nous parlons du code minier, il est cité le contrat d'amodiation et d'autres contrats.
Oui.
Mais à ce niveau, vous pensez vraiment que le contrat d'amodiation a marché dans notre pays au cours de cette dernière décennie?
Non, il faut pas parler en ce terme-là. Un contrat d'amodiation, c'est comme un contrat de location.
Oui.
Vous avez votre immeuble, vous pouvez le louer. Vous faites louer votre immeuble à l'échéance d'un terme mensuel ou trimestriel.
Parce que Gécamines est incapable de produire,
il ne faut pas parler nécessairement en termes
d'incapacité.
Non. Je peux être titulaire, vous pouvez être titulaire de droit minier et vous estimez que vous avez peut-être vos priorités sur un titre. Pour ne pas laisser moisir un titre, vous pouvez le mettre en valeur en le mettant dans un contrat d'amodiation avec X personnes qui peut l'exploiter et qui vous paye le loyer d'amodiation. Donc ça, ce n'est pas question d'incapacité. Mais je sais que les problèmes auxquels vous voudriez arriver sont tout à fait profonds. Parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes, beaucoup de titulaires qui n'ont pas la possibilité d'exploiter ou de mettre en valeur les titres miniers.
Parce que peut-être que le ministère n'est pas regardant, ne sait pas évaluer les capitaux d'ailleurs des gens qui viennent travailler avec une entreprise publique. Je prends le cas de la société Gécamines qui travaille à la modiation aujourd'hui avec certaines entreprises. C'est vrai. Est-ce que à votre niveau, il y a au moins un regard?
Recentrant les choses ou remettant les choses dans leur contexte. Ne parlons pas de la Gécamines ou de la MIBA ou de X en termes, lorsque vous parlez de la modiation. La modiation, c'est un terme général ou une notion générale à laquelle tout opérateur minier ou tout titulaire de droit minier peut recourir.
Voilà.
Donc, la modiation n'est pas dit que la modiation doit nous rapporter ou doit rapporter. C'est lui qui fait une amodiation, touche le loyer d'amodiation. C'est-à-dire, c'est comme un loyer lorsque vous faites louer votre maison. C'est lui qui loue votre maison, peut l'exploiter si c'est une maison commerciale. Il installe des magasins ou je ne sais pas quoi. Lui peut gagner plus, mais dès lors que vous êtes convenu sur un loyer, c'est ça qui vous revient, vous, le bailleur.
Donc ça n'a aucun avantage au niveau de l'État?
Ça n'a aucun avantage au niveau de l'État, non. L'État tire les dividendes en termes d'impôts, des taxes.
Voilà, mais c'est là où je voulais que vous éclairiez un peu l'opinion. C'est que l'État tire. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que c'est quand même important pour aider? Parce que c'est vrai, si nous parlons de déséquilibre entre l'exploitation, tout ça entre en ligne des comptes. Il faut réviser le code minier par rapport aux avantages accordés aux uns et aux autres. Est-ce qu'aujourd'hui, le peu que l'État gagne, est-ce que ça lui suffit pour résoudre certains problèmes?
Disons que là, je crois que vous êtes un peu à l'écart. il faut pas parler de la modiation et penser qu'il n'y a que la seule modiation qui peut rapporter.
Non, il y a autant d'autres.
Je voudrais vous préciser ici. C'est lui qui est amodiataire d'un titre minier et qui fait une exploitation sur ce titre minier, paye au même titre que celui qui est titulaire, les différentes taxes, les différents impôts. Donc si vous me louez votre titre minier et que moi je l'exploite, je dois donner les statistiques de mes productions, je dois payer les impôts, les taxes liées à la production que je fais, de la même manière que celui qui est titulaire directement.
Voilà, monsieur le Dircap, de prendre Guillaume qui est à Mahagui, et puis on reviendra sur certaines préoccupations auxquelles on n'a pas répondu. Guillaume qui est à Mahagui, papa Samy à Songololo. Guillaume, bonjour. Oui, Guillaume, vous avez la parole, Guillaume. Et puis, s'il faut parler un peu fort, Guillaume, parce qu'on vous a dit à peine.
Oui, je dis bonjour, Thiron. Bonjour, J.R.
Oui, c'est J.R. qui est à l'antenne, Guillaume.
Oui, permettez-moi de la confusion.
Oui, allez-y.
J.R., ce qui m'intéresse pour le moment, c'est le titre de l'émission. Ce n'est pas la conférence de Lubumbashi. Parce que vous savez, c'est notre habitude de faire des conférences, de faire des bonnes réunions, là où chacun va aller montrer son beau veste. Et Pierrot, quand tu rentres, par exemple, ici, Chiero, quand tu rentres ici, le sujet de l'émission de jeudi, parce que c'est cette vision-là qui m'intéresse beaucoup. Vous savez, les secteurs miniers, Pierrot et Chiero, le secteur minier contribue à 60%, mais il faut une volonté politique depuis le bas jusqu'au sommet. Donc, je ne pense pas que dans mon parlement, que c'est un acte de l'ouvrage qui vous permettre de contrôler notre minerai du tout. Nous avons à Mahagui, à Mahagui où je parle, Mahagui c'est très loin de Kinshasa, c'est une distance de plus de 2000 km. Nous avons une entreprise à Mahagui. L'entreprise est appelée Moana Africa. Donc l'entreprise est en train d'exploiter de l'or. Donc dans une semaine, nous avons quatre rotations de vols qui arrivent pour venir transporter l'or de Mali vers la Tanzanie. Et cet or est là que pour servir 4 ou 5 individus seulement dans toute une république. Pierrot, JR, la justice, je vous dis que la raison d'un État, c'est la protection de son environnement et de ses ressources. La protection de l'intérêt économique que vous savez impose très vite un État devant un mouvement interactionnel. Mais JR, il n'y a pas ce qu'on appelle la transparence de l'utilisation et la volonté politique qui n'est pas juste pour soi-même. Donc, JR, si vous continuez peu, nous avons lu et nous avons suivi même la résolution du plus 56 qui est sortie aux États de la région à prendre des mesures appropriées afin de mettre fin au commerce illicite. Mais où en est-on aujourd'hui? Où en est-on aujourd'hui, JR? Donc, nous avons suivi même la loi Obama bien rédigée à 200 pages qui devait entrer à vigueur le 1er janvier 2012. La possibilité de miner à l'Est. Mais j'y ai, où en est-on avec ça? Donc, il faut l'application des lois minières. Quand nous avons constaté aujourd'hui qu'il y a la faiblesse des codes miniers aujourd'hui. Donc, ici, j'ai une très belle mémoire. Le 9 septembre 2010, les chefs d'État avaient suspendu l'exploitation minière. Mais, au Pierrot, j'y ai, vous voyez, aujourd'hui, bien évidemment. Donc, il faut plutôt certifier tous les sites miniers.
Voilà,
les
Guillaume.
Recommandations que je donne à l'invité.
Voilà, Guillaume, nous allons accorder la parole à notre invité pour qu'il réponde à votre préoccupation. Nous prenons Papa Samy qui est à Songololo. Bonjour, Papa Samy.
Bonjour, Papa Journaliste. Bon,
vous avez la parole, Papa Samy.
Oui, je suis très content de ces affaires de Lubumbashi, Mais ma préoccupation, d'abord, je salue que le minerai soit traité sur place à Lubumbashi. Alors, je relève trois préoccupations. D'abord, notre gouvernement, trop de théories, pratiques, c'était rare. Il y a eu trop de lois, trop de recommandations et tout de suite. Alors, conséquence, qu'est-ce qui fait que maintenant tout ce qui se traite n'arrive pas à être réalisé? Parce que tous ceux qui ont une petite parcelle de pouvoir dans ce secteur.
Non, Papa Samy, nous devons préciser une chose. Même partout au monde, il y a des ateliers, il y a des conférences, des gens réfléchissent, n'est-ce pas, pour arriver à développer un secteur, à développer la société, il faut que les gens se mettent autour d'une table, réfléchissent pour faire certaines révolutions des choses. Ça a toujours été comme ça partout au monde. Donc ce n'est pas un cachet particulier de la RDC. Les gens doivent se retrouver. C'est là parce que les choses ne marchent pas. On ne doit pas s'empêcher de réfléchir. Il faut réfléchir, je crois, à ce niveau. Mais nous débattons sur une des recommandations, sur les 100 qu'on a pu formuler au cours de ces assises. Nous prenons l'urgence qu'on doit accorder, donc le bénéfice de l'urgence qu'on doit accorder à la révision du code minier. Que vous inspire cette recommandation?
C'est une bonne initiative. Mais c'est d'abord la concrétisation qui pose problème. Pourquoi? Parce que il y a des lois, comme je viens de dire tout à l'heure.
Il y a le code minier qui existe. On demande de les réviser.
C'est l'application maintenant. Puisque maintenant, il faut qu'il y ait des gens qui doivent suivre de près. Alors, si on peut prendre l'exemple, le train est routé sur le rail. Alors, maintenant, tous ceux qui sont acteurs dans ce secteur-là, il faut voir l'entrée, l'exécution et l'aboutissement. C'est à quel niveau se situe le défaut qui fait que maintenant, il y a un décalage entre la richesse du pays et le bénéfice que doit tirer la population congolaise. Et c'est pour cela qu'il faut voir maintenant où est un examen très approfondi, ce qui fait que maintenant, où se trouve la fuite de cette situation que nous vivons au Congo. Donc c'est ça. Donc on peut tenir des exercices, des recommandations, des suites, mais
voilà, merci beaucoup. Merci.
Non pas la bonne volonté, non pas l'amour du pays, non pas l'amour.
Merci beaucoup, Papa Samy. Franck, vous êtes à Vienne. Merci de nous rejoindre. Bonjour, Franck.
Et bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à l'invité et aux autres intervenants.
Voilà, parmi les recommandations formulées au cours de ces assises, hein, on a recommandé qu'il soit accordé le bénéfice de l'urgence à la révision de l'actuel code minier. Que pensez-vous? Ou que vous inspire cette recommandation?
Bon, d'abord, je trouve qu'il faut louer de telles initiatives. On organise des ateliers, des conférences pour revoir un peu notre manière de gérer les affaires de l'État. les hommes doivent toujours être prêts à prendre pour aussi bien planifier leur futur, quoi. Mais monsieur Jurel, vous savez que chez nous, quand nous intervenons et on émet des doutes, c'est parce que on est quand même des personnes, nous voyons un peu ce qui se fait chez nous, comment ça se fait ailleurs. Mais quand nous arrivons quand même à dire que nous avons trop de textes, nous avons trop de lois, nous avons toutes les recommandations, c'est parce que on peut prendre tous ces textes, on peut prendre toutes ces recommandations, on les met sur une table.
Oui,
mais tant que ces lois ne sont pas révisées, tant que ces lois ne sont pas appliquées,
oui,
c'est là la grande difficulté.
Franck,
moi, je trouve ceci, la recommandation en soi, elle est utile. La recommandation en soi, elle est très bonne. On doit revoir certaines choses, mais à condition que les acteurs associés à ce dossier puissent aussi vraiment travailler pour les intérêts de la nation congolaise. C'est là notre grande peine, c'est là notre grande difficulté. Donc, on va de révision en révision, on va de texte en texte. Mais sur le plan pratique, M. Jurel, croyez-nous, rien ne marche. Donc, on ne sent pas qu'il y a quand même des révisions en ce qui concerne. Alors,
oui,
on se pose autant de questions.
Oui, tout à fait.
Nous sommes intelligents, nous les avons. Mais pourquoi ça ne marche pas?
Tout à fait, Franck. Une question peut-être à vous poser. Paris ne s'est pas construit en un seul jour, n'est-ce pas? Et je crois que aujourd'hui, c'est vrai, on marche à tâtons, la démocratie elle est jeune, et il y a des exercices qu'on fait aujourd'hui qu'on n'a pas pu les faire hier. Je crois que petit à petit, on est en train de faire un pas vers disons vers le développement durable. C'est quand même important. Il faut encourager les assises, il faut encourager ceux qui se retrouvent quelque part pour réfléchir. Demain ou après-demain, ça pourrait donner les résultats. Merci Franck. Ingénieur Jacques, on termine avec vous. Vous êtes à Colusie. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous avez la parole, ingénieur Jacques.
Oui, ce que moi je suis en train de vous le dire hein, pour l'instant, c'est ce que nous sommes en train d'observer sur Congo, c'est une simple distraction. Et c'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à organiser des réunions et du consort avec notre gouvernement de la place. Il n'y a rien qui est en train de nous assurer que demain, du secteur minier, on aura un peu à améliorer les choses. C'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé à nous distraire. Ce que nous demandons, c'est que ces gens-là du gouvernement soient un peu sérieux. Moi, je vais vous donner un peu d'exemple du côté un peu ici à Colusie. Il y a l'entreprise KCC. Il a hérité quand même des installations de la GECAMIN. À côté de cette entreprise, il y a une l'île. Je peux vous dire que jusqu'à aujourd'hui, si vous avez allé dans ces cités-là, c'est presque du scandale. Il y a un enfant même de 10 ans qui n'a jamais vu l'eau couler dans des robinets. Tu vois un peu, c'est un peu de cette catastrophe. Ces gens-là, ils vont suivre à la loupe des entreprises et regarder comment ils sont en train de faire l'impact qui est dans la société. Et dans ce sens-là, je voulais juste un peu demander
merci beaucoup.
Au gouvernement de la place d'être sérieux et suivre à la loupe.
Voilà, que le gouvernement soit un peu regardant au travers de son ministère de mine. Merci Jacques. 081-890-6315 pour les débats.
Parole aux auditeurs.
Maître Valérie Moukassa, vous êtes le directeur de cabinet au ministère des Mines. Vous avez suivi une deuxième série des auditeurs. Peut-être l'occasion pour nous de ramasser pratiquement toutes ces préoccupations et d'en réserver quelques réponses.
D'accord. Merci beaucoup. Au total, j'ai dénombré 10 intervenants et plusieurs questions ont été posées. Mais moi, je les regroupe en deux pratiquement. La première, c'est que les différents auditeurs disent que c'était quand même important. Hein. Là, je fais une nuance, c'était quand même important que nous organisions cette conférence, mais il faut qu'elle aboutisse à des choses plus concrètes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour concrétiser ou pour rendre concret toute la volonté du gouvernement à travers l'application du code, etc., il faut que chacun de nous se mettent à l'œuvre. Et là, ils disent principalement, il faut que ceux qui gouvernent, parce que de toutes les façons, c'est la tête qui réfléchit et les membres obéissent. Et donc, ils disent, au niveau du gouvernement, au niveau des décideurs, il faut qu'on reprenne plus d'élan et qu'on impulse, de sorte que ceux qui sont au niveau des différentes administrations appliquent les règles, appliquent les dispositions légales, appliquent les dispositions réglementaires. Et c'est de cette façon que moi je résume les interventions des uns et des autres. C'est vrai, il y a des interventions qui sont un tout petit peu particulières par rapport à la situation de chaque intervenant, là où il est, etc. Mais à dire vrai, l'application des textes légaux, l'application de textes réglementaires n'est pas l'affaire du seul président de la République, du seul Premier ministre ou des seuls membres du gouvernement. C'est l'affaire de tous. Que ce soit dans le secteur minier, que ce soit dans d'autres secteurs. Prenez-je à titre d'exemple. Chaque jour, nous nous plaignons de la manière dont les conducteurs sont en train de violer les règles élémentaires
de la conduite de la route.
C'est vrai, on reproche au gouvernement. Lorsque le gouvernement lève le ton et essaye de remettre de l'ordre, qu'est-ce qu'on n'entend pas? Babandi, tracasserie. Ils ont commencé des tracasseries. Aujourd'hui, c'est ceci, aujourd'hui, c'est cela. Au point qu'on paralyse pratiquement l'action du gouvernement, quelquefois. C'est vrai, le gouvernement a l'impérium. L'État est le plus fort. L'État ne peut pas flanchir lorsque les gens disent oui ou non par rapport à une décision qui est prise. Et que donc l'État a la sanction qui doit être l'exemple. Et c'est à ça que je sens que tout le monde est en train de nous appeler.
Et il y avait une préoccupation très importante ici avec Guillaume qui est appelé à Mahagi, qui dit ils assistent à des scènes parfois très 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 bizarres, 4 vols par jour où on emporte dès l'or,
je vais y revenir. C'est là que je disais.
Oui, rapidement parce qu'on a plus, on a que 5 minutes.
Merci beaucoup. Je voudrais dire à Monsieur Guillaume qui est à Mahagi que la situation des exportations des différentes rotations, il a parlé de la société Mon Africa.
Voilà.
La société Mon Africa, c'est une société qui est en partenariat avec la société Sokimo, l'ancienne Okimo. Et jusqu'à ce jour, cette société est en phase d'exploration. Elle n'est pas en phase d'exploitation. Et donc, si elle est en train de faire des opérations ou des rotations d'exportation des minéraux, il faut considérer que ce n'est pas à proprement dire.
C'est du vol.
Elle ne vole pas. C'est ça que j'ai dit. Ce n'est pas à proprement parler du minerai pour l'exportation en vue d'en faire du bénéfice. Pour construire une usine, on a besoin de connaître la teneur, toute la configuration du minerai qui est dans le sous-sol. Et pour en connaître toute la configuration, il faut faire des analyses. Et si sur le territoire national, il n'y a pas de laboratoire approprié pour faire toutes les analyses afin de donner la configuration exacte du minerai qui est dans le sous-sol pour permettre à l'exploitant de faire une usine qui correspond à aux spécifications de ce minerai, eh bien l'exploitant a la possibilité, qui lui est reconnue par le code, d'obtenir l'autorisation d'exporter pour que ces analyses se fassent à l'extérieur du pays. Et c'est sur base des résultats des analyses, on fait les dimensionnements ou on fait un flowsheet qui correspond au sous-sol, qui correspond aux minerais, etc. Et dans ce contexte où la société Mon Africa fait des rotations, à mon sens, ce n'est pas des tonnes qu'on prend.
La société n'est pas encore en phase d'exploitation.
Elle prend des échantillons pour analyse à l'extérieur.
Merci d'avoir apporté cette précision. Alors, on a évoqué aussi le cas de Calcé, je crois,
Colésie, qui ne se soucie pas. C'est une situation, nous prenons bonne note. Nous avons des inspecteurs sur place, nous allons vérifier et en savoir plus.
Et Jean Chrysostome, qui avait parlé des allégements fiscaux, et qui nous avait renvoyé d'ailleurs au rapport Le Tundula et d'autres rapports qui ont été écrits par rapport au secteur minier.
Tout à fait. C'est vrai, ça c'est ce que nous pouvons dire, ça c'est la loi. La loi autorise aux exploitants miniers d'importer sous les régimes douaniers privilégiés. Et ces régimes douaniers privilégiés leur donnent des taux très faibles pour que l'investissement qu'ils font chez nous ne soit pas très lourd par rapport à leurs activités. Mais alors le problème, là où il situe le problème, il dit, c'est là justement le nœud du problème. Effectivement, il y a un nœud du problème là-bas. Lorsque un exploitant dit qu'il va importer pour 1 million ou 1 milliard des matériels, et que vous allez sur le terrain pour voir l'ampleur de l'activité minière qui doit se faire sur les terrains, il n'y a aucune cohérence. À ce moment-là, il y a problème. Il y a beaucoup de biens. Nous avons déjà mis sur pied une commission de vérification des différentes importations pour voir si ces importations correspondent effectivement à l'ampleur des activités qui se font sur le terrain et voir où éventuellement d'autres biens passent. Parce que c'est comme lorsqu'on parle de carburant, il y a du carburant qu'on prend sous le régime privilégié, mais qui se retrouve dans nos stations. À ce moment-là, il y a quelque part une fraude, une tricherie. Nous ne disons pas que tous les opérateurs trichent, mais il y a certaines choses sur lesquelles nous devons être plus regardants encore afin que nous ne soyons pas trompés.
Voilà. Maître Valérie Moukassa, nous vous disons merci et surtout pour avoir disponibilisé votre temps et venir répondre aux préoccupations des auditeurs. Il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup de préoccupations qui sont restées et c'est vrai que vous avez ramassé pour conclure. Nous disons merci à l'ingénieur, notre auditeur le tout dernier qui devait être d'ailleurs le tout dernier, ingénieur Mangoyo. Vraiment, vous nous excuserez, hein. Ce n'est qu'une partie remise. On pourrait vous accorder la parole prochainement dans un autre débat. Merci à vous tous également d'avoir participé à ce débat.
Allô? 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 Mais qui ne répond pas?
Et merci aussi à Titi, Pierrot et Sylvain qui ont concouru à la réalisation de cette émission supervisée par Nicole Ngaka et présentée par J.R. Lungembo. Demain, on parlera de la demande faite par le gouvernement congolais aux régies financières. Il leur a été demandé de doubler leurs recettes pour l'exercice 2013. En toile de fond du débat, quel doit être l'impact de cette augmentation des assignations sur les vécus quotidiens? Prenez déjà rendez-vous avec nous. À très bientôt.